Bonjour à chacun, ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. Nous avons chanté tout à l'heure « Roi serviteur ». Ça me fait penser à ces congrès de jeunes que l'on a connus dans les années, fin des années 70, début des années 80. À Lausanne, on était 9000 jeunes et après, à Utrecht, où on était 7-8 000 jeunes. C'était dans la foulée de ce qu'on a appelé le réveil des années 70. Nous étions à ces congrès plusieurs, peut-être plus d'une dizaine, quinzaine, vingtaine du groupe ici, et on peut savoir que ces jeunes qui étaient présents là-bas sont toujours au service du Seigneur. Ces événements, outre la vie de l'Église, nous ont façonnés, nous ont fait comprendre le service de Dieu. Nous avons vécu pour l'instant, jusqu'à présent, un culte tout en harmonie musicale, un élan dans le chant, et qui doit nous marquer, qui doit nous parler de la gloire de Dieu. Nous poursuivons aujourd'hui avec un chapitre dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, à la suite du message apporté par Léon la semaine dernière. Des chapitres un peu particuliers qui nous parle de choses peut-être que nous ne pensons pas toujours aussi concrètes dans nos vies. Et c'est vrai que l'Église de Corinthe, qui donne du fil à retordre à l'apôtre Paul, il poursuit d'ailleurs sur sa lancée du chapitre précédent en prenant deux aspects majeurs des travers retrouvés au sein de l'Église de Corinthe. Un, les procès entre chrétiens, et deux, l'immoralité. L'apôtre ne s'arrête pas au discours spirituel, mais il va au fond des choses pour faire ressortir dans un sujet comme dans l'autre la raison profonde. Pourquoi ces réalités dans l'Église de Corinthe sont un véritable aveu d'échec. La manifestation d'une grande faiblesse spirituelle. En quoi cela nous concerne, penseront certains. Les autres diront que la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, n'est-ce pas, comme il est écrit en Timothée. Et cela est bien vrai. Ce qui est plus vrai encore, c'est que le cœur de l'homme ne change pas. Et que les principes évoqués par Paul dans ces quelques versets nous concernent toujours aujourd'hui. Je dois dire que même aujourd'hui, la réalité dépasse les faits historiques relevés dans ce passage, ou du moins y ressemble parfois très fort. Je dirais que les bras m'en tombent, tant les situations, des situations et des faits vécus sont attristants. Je regrette de devoir apporter une prédication sur ces sujets, peut-être difficiles, difficiles au plan personnel, au plan, pas nécessairement que tous nous ayons vécu ces choses, j'espère que non. Mais je n'étais pas plus tard qu'hier soir informé de faits qui m'ont laissé pantois. Je reçois un mail provenant d'une ASBL d'une de nos ex-églises. Et même si, sauf revirement, je ne m'appendais pas à autre chose dans le cadre de, du suivi dans cette association. J'ai communiqué avec notre président d'association en disant « Est-ce que tu as vu, tu as compris ça ?» Et il dit « Oui, j'ai compris la même chose que toi. » Et qu'est-ce qui nous vient à l'esprit ? Premièrement, on va défendre nos intérêts. Et j'étais, avec le passage d'un Corinthiens 6 sous les yeux, et il était écrit, mais acceptez peut-être que le tort qu'on va vous faire, n'engagez pas des procès entre vous, entre chrétiens. Nous avons connu ça dans cette église. Un pasteur qui a fait un procès à l'église. Il était 2 ans parmi nous, nous l'avons remercié. Il a été exclu de l'association, un des pasteurs de notre association l'a arrêté dans un discours qu'il a voulu faire devant notre assemblée générale. J'avais un dossier que je pouvais utiliser contre lui. Je n'ai même pas ouvert ce dossier. Je n'ai même pas voulu lire ce qu'il y avait dedans. Parce qu'il m'avait été remis par un ancien. Et un de nos pasteurs s'est levé et a dit « Tu mens, tais-toi. » C'en était fini. Alors oui, ces choses sont parfois vécues dans les églises. Et malgré tout cela, l'apôtre ne perd jamais de vue qu'il parle à l'Église et aux croyants qui la composent, gardant son cœur ouvert à l'amour de Christ qui doit prévaloir même au milieu de la réprimande, voire même lorsqu'une exclusion doit être prononcée, comme il l'écrit au verset 1 à 5 du chapitre précédent que nous avons vu la semaine dernière. Et j'y reviendrai tout à l'heure brièvement. Les Corinthiens étaient baignés dans la culture de leur époque, une ville qui s'enrichissait du trafic maritime, avec des taxes et des impôts divers, hein, rien n'a changé, hein, aujourd'hui on fait la même chose. J'ai travaillé pendant 45 ans pour les finances de l'État, et je sais bien ce que sont les taxes. Comme je l'avais partagé lors de la méditation du chapitre 3, il y avait un grand intérêt pour la philosophie et la connaissance. Le développement insouciant de l'individu, ça ressemble un peu aussi à ce qu'on dit aujourd'hui. Il faut faire ce qui vous convient, faire ce qui vous épanouit. Alors, oui, certainement. Mais ce développement insouciant de l'individu conduisait un peu à un homme ou une femme qui ne reconnaît rien de supérieur à lui, ni aucune loi, en dehors de ses propres désirs. Et cela nous aide à mieux comprendre lorsque nous lisons ailleurs que Paul écrit « Considérez les autres comme supérieurs à vous-même ». Ça nous aide à comprendre, le contexte nous aide à comprendre ce que Paul écrit. Il l'écrit parce que cela touche à une réalité de la pensée à Corinthe. Le contexte aide toujours dans la compréhension. Et dans tout le monde antique, Corinthe avait mauvaise réputation. Corinthisé, c'était mener une vie de débauché. C'est Aristophane qui écrit cela. Une Corinthienne, c'était une prostituée, écrira Platon. Et un Corinthien, un coureur de jupons. Dans les pièces de théâtre, les Corinthiens étaient généralement représentés comme des ivrognes. Et ça vous fait écho dans vos esprits, Soyez remplis de l'esprit et non de vin. Voilà d'où ça vient. Le théologien anglais Farrar écrira au sujet de Corinthe, l'Est et l'Ouest mêlaient leurs lits et leur pourriture dans la nouvelle Gomorre de la culture classique. Et les orgies de la Vénus de Paphos étaient aussi célèbres que celles d'Isis et d'Astarté. Nous comprenions mieux que c'est dans un tel contexte que l'apôtre Paul, au cours de son séjour prolongé à Corinthe, a constaté la dégradation morale de l'homme dans le paganisme, et c'est bien à Corinthe qu'il a peint et écrit le sombre tableau de Romains. Romains, chapitre 1er. Peut-être poussez-vous à ce stade un ouf de soulagement, parce que nous ne sommes pas comme eux, n'est-ce pas ? Ce n'est pas si grave. C'est à cause de ces païens que Paul écrit ces propos terribles. Et comme le dit 1 Corinthiens 1, verset 18, « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Les Grecs recherchaient la sagesse, écrit-il en 1 Corinthiens 1, verset 23. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Et au verset 24 du même chapitre, il écrit « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. » Et l'apôtre rappellera au verset 30 que Christ est la source de notre sainteté et notre libérateur. En 2 Corinthiens 10, au verset 10, certains disaient de Paul, « Ses lettres sont sévères et fortes, dit-on. Mais quand il est présent, il est faible et sa parole est méprisable. » L'apôtre Paul ne fait vraiment pas le poids pour un certain nombre de membres de l'Église de Corinthe. 1 Corinthiens 6, verset 1er, « Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant tous les saints ?» Et non devant les saints. Dans la société de Corinthe, c'était habituel d'avoir des procès. Ces habitudes n'ont pas disparu chez les païens convertis. Ils ont emmené leur pratique dans l'Église. Aux États-Unis, il arrive qu'un client se brûle la langue avec un café ou en mordant dans un hamburger. Cela débouche parfois sur un procès et un conséquent dédommagement. C'est sans doute un peu l'état d'esprit à Corinthe. Mais l'apôtre met les choses en perspective. Des différends de la vie courante ne devraient pas opposer les croyants au point d'aller devant la justice des hommes. Au verset 2 du chapitre 6, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance ? Ne savez-vous pas, au verset 3, que nous jugerons les anges, combien plus les affaires de la vie courante ? Oui, les Corinthiens le savent, mais cette connaissance n'est pas passée dans leur vie pratique. C'est un peu une leçon pour chacun de nous. Est-ce que notre connaissance de la parole de Dieu passe dans notre vie pratique de chaque jour ? Ou a-t-on besoin de chaque dimanche pour être réveillé, pour que notre semaine soit solides dans notre marche avec le Seigneur. Oui, le rappel est utile. Oui, le culte est utile. Oui, la lecture de la parole de Dieu est utile. Mais quel impact a-t-elle sur notre vie pratique ? Comment osez-vous porter devant des incroyants une cause qui n'aurait pas dû franchir les portes de l'Église ? Paul met en face de leurs agissements cette vérité ignorée du monde, que Christ sera le juge suprême et l'Église a déjà la connaissance de cette absolue vérité. Dans le livre de Daniel, au chapitre 6, à partir du verset 25, Daniel est appelé auprès de Belshazzar pour expliquer ce qu'un doigt mystérieux a écrit sur le mur d'une salle où se déroulait un grand festin. Daniel dit au roi qu'il s'est dressé contre Dieu et qu'il n'a pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main son souffle et tous ses chemins. C'est un peu le cas aussi pour chacun de nous. Et au verset 24, il est écrit dans ce chapitre du livre de Daniel, c'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Comptez, comptez, pesez et divisez. Comptez. Dieu a fait les comptes de ton règne et a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Nous avons vu, n'est-ce pas, dans les jours qui ont précédé ce dimanche, qu'un régime totalitaire a été balayé en quelques jours. Comment cela est-il possible ? Peut-être que des services secrets américains et autres avaient senti le roussi, mais nous n'en savions rien. Et en quelques jours, c'est la fuite du dictateur. Le remplacement de ce régime par un autre, ça, nous ne savons pas encore ce que ça va donner. Mais en tout cas, en un jour, en quelques jours, ça a été balayé et on ne s'y attendait pas. Verset 27, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger, et puis ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. La même nuit, Belshazzar fut tué. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Pourquoi je prends ce passage ? Parce qu'il est raconté aussi aux enfants de l'école du dimanche, et quand peut-être on s'en souvient, qu'il est un peu extraordinaire, mais il montre que Dieu est au-dessus et que Dieu agit. Dieu au-dessus d'un grand roi. Le Dieu qui reste le maître, le Dieu qui va juger le monde. Et l'apôtre ici en 1 Corinthiens dit, chapitre 6, « Vous jugerez même les anges ». En 2 Pierre 2, au verset 4, « En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres pour qu'ils soient gardés ». En vue de quoi ? Du jugement. Jean 15, 22 déclare que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est vraisemblable que dans cette association avec le Seigneur, que nous allons prendre part à son jugement contre ses anges. Éphésiens 1, versets 20 à 23, dit « Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Et le verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Verset 23, l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'enseignement de Paul est bien clair. Porter des différents jugements devant l'Église à cause du rôle futur de l'Église comme juge. N'allons pas devant la justice des hommes, même si la justice a évolué aujourd'hui et qu'elle n'est peut-être plus si aléatoire qu'à l'époque, mais nous savons bien, pour l'avoir vécu nous-mêmes ici, qu'on n'est jamais sûr d'un jugement. N'y trouve-t-on personne pour juger entre ses frères et sœurs? Nous avons tous reçu des lumières, écrit, dit la parole de Dieu, et nous n'aurions pas de sagesse pour examiner la cause entre des frères et des sœurs? Ils ne doivent pas exposer leur cause devant des incroyants. Verset 4 du chapitre 6, « Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. » Des choses que nous ne voyons pas aujourd'hui. J'étais moi-même, il y a quelques... un an et demi peut-être, deux ans, dans un tribunal en Wallonie. J'y allais pour assister à une audience. Une de nos églises contre une école protestante, une école chrétienne. Et je dis, je vais aller voir. Parce que je connaissais le dossier dans le détail. Et puis l'audience n'a pas eu lieu parce que il y avait trop de monde, la salle était trop petite et le juge a dit non. J'ai rencontré un ancien dans un couloir et il m'a dit non, ça n'aura pas lieu aujourd'hui. Mais je suis quand même monté et j'ai regardé discrètement et j'ai vu des membres de l'Église avec des macarons. Soutien à l'Église. Vous croyez qu'un juge va être impressionné par ça? Est-ce qu'on vient avec des banderoles dans une salle d'audience pour défendre une église? Pourtant, je l'ai vu. Le juge n'a pas été impressionné, heureusement. Il y a eu d'autres audiences, il y a eu des appels. Et vous savez, dans une affaire comme ça, il n'y a jamais de « tout est blanc, tout est noir ». Bien sûr, mais la médiation de notre association d'Église a été refusée. Et au verset 5, l'apôtre dit, « Je le dis à votre honte, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. » Point d'exclamation. L'apôtre est ironique et grinçant. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant les incroyants. Quel témoignage pensez-vous que cette Église en Wallonie a apporté devant les hommes et devant la justice? Justice souvent franc-maçonne. Une ironie teintée d'indignation face à la superficialité des Corinthiens. Et même si nous n'en sommes pas là aujourd'hui dans notre Église, nous pouvons peut-être aller un peu plus profondément dans nos cœurs pour voir quelle est notre attitude vis-à-vis les uns des autres et notre soumission à Christ, aussi dans ce qui peut-être dans nos cœurs grince. même si le résultat d'un procès est favorable, cela reste pour l'apôtre un échec à cause de l'attitude à la base, à cause de la compréhension des enjeux spirituels dans l'Église et entre les croyants. Verset 7, « C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice et pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt vous dépouiller ?» Ah non, jamais ça. Non, ça je ne veux pas. Verset 8, « Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres, et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. » Et le verset 9 sonne comme un avertissement en évoquant divers aspects de l'injustice. Vous faites appel aux injustes en grec, le mot « adikos » est le même mot grec employé pour les tribunaux païens. Les tribunaux païens ne connaissent rien de la justice divine, même si par le passé il y avait dans nos prétoires des crucifix, n'est-ce pas ? Toutefois, la justice de notre temps a bien évolué, et on peut pourtant y trouver de nombreuses défaillances. Verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, et c'est le basculement vers la deuxième partie de ce chapitre 6, ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels. Regardez autour de vous, hein, la Gay Pride, ça, c'est devenu quelque chose au patrimoine de la ville de Bruxelles. Verset 10, « Ni les voleurs, ni les hommes, toujours désireux de posséder plus. » Et sachez bien que ceux qui font du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains et d'autres sortes de fraudes, c'est pourquoi ce sont des gens qui enfreignent toutes les règles parce qu'ils veulent devenir riches rapidement, parce qu'ils veulent dépasser le commun des mortels plus vite que n'importe quoi. J'en ai rencontré dans mon métier. Ce sont des gens qui, certains, sont très, vraiment normaux. Ils sont pas tous des gens avec des pistolets qui tuent des gens dans la rue. Mais simplement, ils ont dans leur tête le fait, la volonté de s'enrichir d'une manière démesurée. Et rapidement. Ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et verset 11, et c'est cela que vous étiez certains d'entre vous. L'apôtre Paul ne fait pas une généralisation à toute l'Église. Il veut toucher ceux qui, effectivement, ont failli. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. L'apôtre bascule vers ce qui est spirituel et qui devrait empêcher de tomber ou de retomber dans ses travers. Notre monde est-il si différent ? Je ne le crois pas. Remarquons que l'apôtre ne généralise pas après avoir cité nombre de péchés grossiers, dans lesquels, je l'espère, beaucoup d'entre nous ne sont pas encore tombés. Il appelle les Corinthiens à se saisir des vérités pour que celui qui doit se ressaisir le fasse sans attendre, à cause de la connaissance de Christ. Et vient ensuite, à partir du verset 12, cette question qui touche encore une fois à la vision corinthienne des choses, un esprit libre et sans contrainte, ce qui immanquablement montre que l'esprit du siècle avait contaminé l'Église. C'est un reproche fait à ceux qui vivent essentiellement pour ce qui est terrestre. Les remarques de Paul viennent de ce qu'il a appris par les gens de la maison de Chloé, une chrétienne aisée de l'église de Corinthe. C'est de la vie de l'église que Paul est informé. Mais ces questions vont bien au-delà. Elles ont une portée universelle. La situation de cette église est particulièrement choquante, où une immoralité grossière sévit. Plusieurs ne se sont même pas repentis, écrira-t-il au chapitre 12 et au verset 20. L'immoralité sexuelle et les abus n'étaient pas vus comme une faute morale dans la cité de Corinthe. Le culte de Vénus y était pour quelque chose. Plus que l'infidélité de certains individus dans l'Église, c'est la tolérance de l'Église à l'égard du mal qui préoccupe l'apôtre. La tolérance de l'Église. Cela entrave la vie de l'Église dans son développement. Au verset 12, il écrit, et nous connaissons tous cela, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » « Tout m'est permis » ressemble au langage des philosophes et des chefs des écoles de pensée à Corinthe. Tout ce qui est nécessaire à la vie humaine est permis aux chrétiens. Une bonne nouvelle aussi pour nous. Vivre naturellement et ne pas mépriser les forces naturelles de l'homme, je n'irai pas plus loin sur le sujet, mais il y a un second principe qui remonte clairement à la surface. Ce qui est naturel se doit pour le chrétien rester soumis à ce qui est surnaturel. Tout n'est pas indiqué ou tout ne convient pas. Mais il apparaît que le verbe grec employé ici, sumphéro, signifie « porter ensemble ». Tout est permis. Mais je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul dans l'Église. Ce qui semble légitime pour Paul ne l'est plus lorsque cela représente un obstacle pour les autres dans l'Église. La pensée évangélique veut que je tienne compte de mes relations avec mon prochain et de ma responsabilité à son égard. Une seconde restriction est celle de l'asservissement. Même si une chose est permise, mais qu'elle finit par m'asservir, je perds ma liberté parce que je ne peux plus m'en passer. Je suis donc appelé à rester soumis à mon seul maître, qui est le Seigneur, en lui soumettant toute chose de ma vie. Pour être clair. Verset 13, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Bah, oui, effectivement. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Cela est éphémère. La frénésie qui grandit dans les commerces à l'approche de Noël est toute légitime. Elle n'est pas mauvaise en soi. Mais reconnaissons que nous devons rester conscients pour nous-mêmes que tout cela est passager. L'équilibre reste de mise entre réjouissance et sobriété. La deuxième partie du verset 13, « Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. » Cette dimension du corps n'est pas tout à fait la même que la chair, la notion de la chair qui est associée à une manière de vivre, tournée vers les choses matérielles et charnelles. Le corps est une création divine. Et Paul montre que le corps du croyant est destiné à la résurrection. Or Dieu qui a ressuscité, verset 14, le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Le contraste avec les choses passagères qui seront détruites sont opposés au corps qui sera éternel. Le corps qui aura été soumis à l'autorité de Dieu, ce corps pour qui le Seigneur pourvoit à tous ses besoins de la vie physique. Et là, nous approchons de la conclusion à la fois délicate et ferme de l'apôtre. Verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Et au verset 18, il dit « Fuyez ! Fuyez l'immoralité sexuelle. » Je suis stupéfait de ce que j'entends dans les propos de jeunes ados en télévision. J'imagine que les adultes ne sont pas en reste non plus. On a estompé la norme qui tenait encore un semblant de retenue. Fuyez, dit l'apôtre, à ceux qui avaient pris tant de liberté à Corinthe et dans l'Église. Verset 18, deuxième partie, « Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son corps. » On comprend mieux le jugement de Paul au sujet du péché mentionné au début du chapitre 5, avec une sentence d'exclusion. Oh ! Alors là, on est très loin de ce qu'on pourrait imaginer. Au verset 5, l'apôtre écrit « Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur. » Un fait grave d'un serviteur de Dieu dont j'ai eu connaissance a donné lieu à une telle exclusion. Cela montre combien ce passage n'est pas loin de notre temps. Et dans les travées de cette Église, ici, le pasteur de cette Église, un autre pasteur de cette Église, m'a dit « L'exclusion, c'est pour la rédemption de son âme. » C'est exactement ce que l'apôtre écrit en 1 Corinthiens 5. Ne soyons donc pas légers comme le monde voudrait que nous le soyons aussi. En effet, au verset 19, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Alors à chacun de nous de savoir faire ce que nous voulons dans l'esprit des Corinthiens ou soumettre notre vie à Christ. Parce que le verset 20 dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Et entre crochets, il est écrit « Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voilà sans aucun doute la plus excellente manière de rendre gloire à Dieu. C'est plus difficile que les Alléluia. Cela nous fait réfléchir. Ce dernier verset, pourtant, nous rassure et nous réjouit parce qu'il nous rappelle que c'est pour la liberté à l'égard du péché que Christ s'est donné pour nous à la croix. Ça, c'est la réalité encourageante et vivante pour chacun de nous si nous lui appartenons aujourd'hui. Et dites-nous bien que cette liberté est inconnue, elle est inconnue pour ceux qui ne lui appartiennent pas. Gloire à Dieu.